26 février 2018 et voici votre revue de presse, le quotidien des quotidiens, avec pour vous servir aujourd'hui François Brodeur en remplacement d'Hélène Denis. Or, et bien, évidemment, n'étant que remplaçant, je me garderai bien de chambouler tout l'ordre naturel de cette émission et de déplacer les éphémérides. Jean-Sébastien, que s'est-il passé le 26 février au travers de l'histoire?
Eh bien, multitude de choses, François. Il faudra attendre cependant 1960 avant que je vous amène en Amérique du Nord. Alors, 26 février 1797, la Banque d'Angleterre émet le premier billet d'une livre. 67, toujours en Angleterre, Londres adopte l'acte de l'Amérique du Nord britannique. La Confédération canadienne naîtra le 1er juillet suivant. 1901, cette fois en Chine, deux meneurs de la révolte des boxeurs. Et je ne ferai pas l'impair de tenter de nommer ces deux Chinois qui ont mené cette révolte. Donc, ces deux meneurs de la révolte des boxeurs sont décapités en public. 26 février 1918, des avions allemands bombardent Venise. 1935, l'ingénieur anglais Robert Watson Watt fait la démonstration du radar. 26 février 1936, Hitler inaugure la première usine Volkswagen. 1952, Winston Churchill annonce que l'Angleterre a mis au point sa bombe atomique. 1960, on traverse l'océan en slalom au Colorado. Anne Hegveit donne au Canada sa première médaille d'or olympique en ski. 26 février 1992, en Irlande, la Cour suprême autorise une fille de 14 ans à quitter le pays pour obtenir un avortement. 1993, l'explosion d'une bombe dans le parking souterrain du World Trade Center à New York fait 6 morts et plus de 1000 blessés. En 2001, cette fois, toujours un 26 février, le régime taliban ordonne la destruction de toutes les statues en Afghanistan. 26 février 2011, après un arrêt de travail de plus de 2 ans, les employés en lockout du Journal de Montréal acceptent l'offre de Québécois. Et 26 février 2015, après un passage très remarqué au ministère de l'Éducation du Québec, l'ancien ministre Yves Bolduc quitte la vie politique pour retourner à la pratique médicale.
Mm-hmm. 26 février. Ben, il avait compris que de revenir à la politique ensuite, c'est archi payant.
Et pour conclure, 26 février, c'est l'anniversaire de naissance de Victor Hugo, lui qui est né en 1802. Mm. 1928, naissance du chanteur Antoine Domino, qu'on connaît comme étant Fats Domino. Et 1932, naissance du chanteur Johnny Cash. 1986, c'est également le décès du gardien de but québécois Jacques Plante. Et en 2014, un 26 février, on perdait le chanteur country québécois Georges Hamel.
Oui, Jacques Plante, qu'on pourrait qualifier de fantôme du forum, parce qu'il y avait un masque, voilà. J'ai toujours rêvé de la placer. Merci Jean-Sébastien.
Avec plaisir.
Et on passe tout de suite aux pages de la presse. Et il y a une nouvelle qui pourrait surprendre, et vous allez voir pourquoi ça ne sera pas tellement long, un texte d'Audrey Ruel-Manceau, « Des médecins s'unissent contre les hausses de salaire ». Nous, médecins québécois, qui croyons en un système public fort, nous opposons aux récentes hausses de rémunération négociées par nos fédérations médicales. Ainsi commence une lettre mise en ligne hier soir par médecins québécois pour le régime public et qui réclame que le gouvernement annule les hausses salariales accordées aux médecins. Dans une nouvelle offensive, le conseil d'administration de MQRP invite ses membres, par l'entremise de Facebook, à partager et à signer la lettre écrite dans la foulée de son opposition aux récentes augmentations de la rémunération médicale. Ces augmentations sont d'autant plus choquantes que nos collègues infirmières et infirmiers, préposés, commis et autres professionnels subissent des conditions de travail très difficiles, tandis que nos patients vivent avec le manque d'accès aux services requis à cause des coupures draconiennes des dernières années et de la centralisation du pouvoir au ministère de la Santé. La seule chose qui semble être immune aux coupes est notre rémunération, peut-on lire dans le document qui était déjà signé par une soixantaine de médecins, médecins résidents et étudiants en médecine hier soir. Contrairement aux déclarations du Premier ministre, nous croyons qu'il y a un moyen de redistribuer les ressources du système de santé québécois pour promouvoir la santé de la population et répondre aux besoins des patients, sans pousser les travailleurs et travailleuses au bout du rouleau, est-il aussi écrit. des propos appuyés par les signataires. Nous, médecins québécois, demandons que les hausses salariales octroyées aux médecins soient annulées et que les ressources du système soient mieux distribuées pour le bien des travailleurs et travailleuses de la santé et pour assurer des services en santé dignes à la population du Québec. Samedi, le conseil d'administration du regroupement s'est réuni en assemblée extraordinaire. La présidente, la Dr Isabelle Leblanc, avait fait savoir à la presse que MQRP avait été contacté par un nombre important de médecins, y compris des non-membres, et que ces derniers voulaient savoir de quelle façon ils pouvaient manifester leur opposition aux hausses salariales et agir en solidarité avec leurs collègues du domaine de la santé. Cette lettre est la première action en ce sens que le regroupement réunissant 500 membres, entend faire. MQRP prévoit également un rassemblement le samedi 24 mars. Nous souhaitons une mobilisation générale des travailleurs et travailleuses de la santé ainsi que des citoyens et citoyennes pour la sauvegarde de notre système public contre l'iniquité de distribution des ressources en santé et pour garder le privilège de soigner les gens selon leurs besoins et non pas selon leurs moyens, a expliqué Mme Leblanc hier soir. Depuis une semaine, MQRP multiplie les sorties publiques en opposition aux hausses négociées par le gouvernement avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Lundi dernier, dans une lettre publiée sur son blog, le regroupement demandait au premier ministre Philippe Couillard et à la présidente de la FMSQ, Diane Francœur, d'investir cet argent autrement afin de préserver et améliorer notre système de santé publique. Docteur Couillard, docteur Francœur, il est faux de prétendre que tous les médecins souhaitent obtenir une hausse salariale. Cela peut être difficile à concevoir du haut d'une tour d'ivoire, celle-ci coûtant cher d'hypothèque, mais peut-être même que la majorité des médecins se prononceraient contre une hausse si faramineuse s'ils en avaient l'occasion lors d'un processus réellement démocratique. Ces médecins ne veulent pas plus d'argent. Ils veulent une interdisciplinarité accrue, avec des collègues heureux, épanouis et qui ont le sentiment de faire un bon travail. Ils veulent plus de ressources humaines et matérielles pour leurs patients, a notamment affirmé MQRP. Samedi matin, à l'hôpital Pierre-Legardeur à Terrebonne, 25 infirmières et infirmières auxiliaires ont fait un sit-in pendant une heure pour protester contre le manque de ressources et les heures supplémentaires obligatoires. Ce matin-là, il manquait 7 infirmières au département. En après-midi, plus d'un millier de personnes ont marché dans les rues de Montréal pour réclamer la démission du ministre de la Santé, Gaétan Barrette. Elles ont marché de la place Émilie-Gamelin jusqu'au bureau du premier ministre Philippe Couillard au centre-ville, où les députés de Québec solidaire Amir Kadir et Gabriel Nadeau-Dubois ont symboliquement remis une pétition de 54 000 signatures demandant la démission de M. Barrette. Toujours dans la presse, François Cardinal signe un papier assez marquant, dirons-nous. La ville n'aime pas les vieux. La population vieillit si vite au pays qu'on compte maintenant plus d'aînés que d'enfants, imaginez. Et pourtant, la ville n'est pas prête pour ce changement démographique qui va s'accélérer, encore moins la banlieue. La situation n'est pas trop mauvaise dans les quartiers centraux de Montréal, où la densité permet aux plus âgés de profiter de nombreux bancs publics, de commerces de proximité et de transports en commun fiables à toute heure du jour. Mais mettez-vous dans la peau d'une dame de 88 ans et allez vous promener à Montréal-Nord ou Pointe-aux-Trembles pour voir. Mettez-vous à la place d'un vieillard qui a perdu son permis de conduire et tentez de circuler à Laval ou à Brossard. Vous allez avoir envie de vous enfermer chez vous pour de bon. Or, les plus âgés seront bientôt la norme au Québec et ils auront le droit à la ville et à la mobilité comme tout le monde. Ils auront droit de vieillir en santé, un droit qui, pour l'instant, est dénié aux aînés dans de nombreux coins du Québec. Bien des quartiers et des villes ont en effet été aménagés à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour des jeunes couples avec enfants et voitures. Et ce modèle, on ne l'a pas modifié en pensant que les baby-boomers quitteraient la banlieue pour le centre lorsque leurs enfants déserteraient la maison, laissant ainsi la place à d'autres jeunes familles motorisées. Erreur. On réalise aujourd'hui que les plus de 65 ans choisissent de se réinstaller en copropriété dans la municipalité où ils ont élevé leurs enfants. Des municipalités qui ne sont pas prêtes à accueillir ces citoyens grisonnants. Les trottoirs sont fréquemment déficients, quand il y en a. les commerces de nécessité sont éparpillés, les autobus se font rares les jours de semaine. Les intersections sont si vastes qu'elles font craindre le pire à ceux qui osent les traverser. Les passages pour piétons sont l'exception, et la qualité esthétique de l'environnement est souvent douteuse. Et ce dur constat, on peut l'étendre à bien des arrondissements périphériques de Montréal, comme vient d'ailleurs de le démontrer la chercheuse Paula Negro-Poblete dans un livre ayant pour titre « Vieillissement et aménagement ». Ses conclusions, après avoir étudié les quartiers Montréal-Nord et Pointe-aux-Trembles, sont accablantes. Les intersections compromettent la sécurité des personnes âgées. Les trottoirs sont pleins de défauts. Et le mobilier urbain se fait rare, même s'il est si important pour la socialisation, la sécurité et le confort des aînés. La chercheuse donne ainsi la parole à une dame qui souffre justement de cette absence de banc public dans son quartier. « Je m'accote sur les poteaux, j'ai l'air d'un vrai chien, j'ai honte. Des fois, j'ai tellement mal dans le dos, je regarde s'il n'y a pas personne et je m'appuie sur un poteau. Je respire, puis je pars. » On est loin de l'autonomie et de l'indépendance souhaitée pour nos aînés. On est loin du milieu de vie accueillant qui permet de vivre dans la dignité, de profiter des services sociaux, des loisirs, des activités physiques et des interactions sociales intéressantes pour vieillir en santé. Le Québec se vante depuis des années de son programme Municipalité Amis des aînés qui permet d'aménager les villes dans une démarche de promotion du vieillissement actif. Mais il suffit de se promener un peu pour voir qu'on se limite trop souvent des ajustements à gauche et à droite, sans repenser la ville, sans trop y croire même. C'était dans tous les journaux francophones du Canada que j'ai consulté ce matin, probablement aussi largement dans la presse anglophone du pays. Le leader parlementaire du Bloc québécois démissionne. Je prends la version de la presse canadienne. Le député de Joliette, Gabriel Sainte-Marie, a annoncé dimanche qu'il démissionnait de son poste de leader parlementaire du Bloc québécois en raison de son incapacité à communiquer avec la chef du parti, Martine Ouellette, et à cause de leurs différences de vues sur le travail parlementaire à Ottawa. Dans un communiqué publié dimanche soir, Gabriel Sainte-Marie a déclaré « Je pense qu'il est essentiel qu'il y ait un lien de confiance particulier, une espèce de communion d'idées entre la chef et son leader parlementaire, et ce n'est malheureusement pas le cas. » Une attachée de presse du député a indiqué à la presse canadienne dimanche soir que M. Sainte-Marie ne prévoyait pas discuter de la situation avec les médias et qu'une rencontre entre Gabriel Sainte-Marie et Martine Ouellette était prévue lundi matin. Dans sa déclaration, le député de Joliette a aussi indiqué comment il perçoit son parti. Le Bloc québécois est un parti indépendantiste qui doit en faire la promotion, évidemment, et c'est ma conviction la plus profonde, tout comme je persiste à croire que notre responsabilité première à la Chambre des communes est de défendre les intérêts des Québécoises et des Québécois et porter les consensus de l'Assemblée nationale. C'est en montrant les effets néfastes du fédéralisme sur la vie des gens et en faisant la démonstration que seuls des indépendantistes défendent sans compromis les intérêts du Québec que nous faisons avancer notre cause. La relation entre la chef du Bloc québécois et l'ex-leader parlementaire ne semble pas avoir été de tout repos. En juin 2017, Gabriel Sainte-Marie et six autres députés du Bloc québécois avaient affirmé que leur lien de confiance avec Martine Ouellette avait été ébranlé et qu'elle devait travailler pour le rétablir. Ils reprochaient à leur chef d'avoir nommé Louis-Philippe Dubois comme chef de cabinet une personne qui n'avait pas la confiance des députés. Quelque temps après, Mme Ouellette avait dû congédier Louis-Philippe Dubois qui, selon le Huffington Post, avait voulu ouvertement nuire à un député du parti, Réal Fortin. Le caucus blocus s'était finalement rangé derrière sa chef. Et voilà pour cette nouvelle qui est quand même assez étrange parce que usuellement, ces gens-là démissionnent sans dire pourquoi ou pour des raisons familiales, mais là, on le dit carrément, je ne m'entends pas avec la chef.
Quand on est tout mélangé, quand le bateau coule, lève la nuit de tous les dangers. J'irai danser, mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'a rien à manger? Quand les larmes coulent. Ah ah. Oh les cœurs.
Nouveauté de Karim Ouellet de son album 30, ça s'intitule Les Roses.
Alors c'est l'heure de lire le devoir et je commence immédiatement avec la caricature de Garnotte où on voit Justin Trudeau habillé dans un costume sec et dans une position absolument impossible. À côté de lui, deux Indiens, le premier qui demande à l'autre « c'est du yoga canadien ?» Non, c'est sa réponse à la question d'un Sikh indépendant, un État Sikh indépendant. Voilà. Guillaume Bourgault-Côté revient sur Netflix. Le titre de son article, « Québec espère une volte-face du fédéral sur Netflix ». Le troisième budget Morneau doit être l'occasion pour le gouvernement Trudeau de corriger le tir par rapport au traitement fiscal réservé aux géants américains du web, dit la ministre québécoise de la Culture, Marie Montpetit. On voit le budget comme une occasion pour le fédéral de répondre à cette question du dossier des plateformes étrangères, a indiqué la ministre vendredi en entretien avec Le Devoir. Elles doivent être assujetties aux mêmes règles fiscales que les plateformes canadiennes, a réitéré Mme Montpetit, qui reprend ici un combat porté par son prédécesseur, Luc Fortin. À la veille de la présentation du budget fédéral, la sortie de la ministre rappelle que le dossier représente toujours une pomme de discorde importante entre Ottawa et Québec. Mme Montpetit déplore notamment que sa collègue du fédéral, Mélanie Joly, n'ait jamais répondu à une lettre envoyée peu après son entrée en fonction à la mi-octobre. Le bureau de Mme Joly n'était pas disponible pour faire des commentaires dimanche. J'ai réitéré notre position par rapport à la taxation et j'ai demandé d'avoir accès à l'entente signée avec Netflix, un investissement de 500 millions sur 5 ans en production. Je n'ai pas eu de réponse et c'est pour ça qu'on a décidé d'aller de l'avant. Elle fait référence à la décision annoncée, mais pas encore entrée en vigueur, de Québec d'obliger les plateformes étrangères à percevoir la TVQ sur les produits qu'ils offrent, notamment les abonnements aux services de vidéo Netflix. Le gouvernement fédéral ne veut pour sa part rien savoir d'une obligation de perception des taxes à la consommation sur ce type de service, L'argument officiel est qu'Ottawa ne veut pas augmenter le fardeau fiscal de la classe moyenne. L'automne dernier, plusieurs personnes ont dénoncé ce qu'elles estiment être un manque d'équité fiscale envers les plateformes canadiennes qui doivent, pour leur part, facturer ces mêmes taxes à leurs clients. Ah, à moins de vivre sur la planète Mars, vous le savez, jusqu'à dimanche, c'était les Olympiques, voilà. Et le Canada a remporté des médailles, beaucoup de médailles. En fait, plus de médailles qu'il n'en a jamais rapporté dans aucun jeu d'hiver ou d'été confondu. Mais Carl de Rétino Paradzelli du Devoir remet les choses en perspective. En fait, j'irais même jusqu'à parler de, et passez-moi l'expression, de pétage de ballon. Une récolte canadienne exceptionnelle? Les 29 médailles remportées par le Canada aux Jeux olympiques de Pyeongchang permettent au pays de terminer troisième au tableau des médailles et de battre le record de 26 récompenses olympiques établi il y a 8 ans à Vancouver. Mais s'agit-il vraiment d'une récolte exceptionnelle pour la délégation canadienne? En y regardant de plus près, on constate que non. Quel jeu incroyable! Nous avons obtenu 3 médailles de plus qu'à Vancouver en 2010, 4 de plus qu'à Sochi en 2014, s'est réjouie la présidente du Comité olympique canadien, Tricia Smith, au moment de faire le bilan des Jeux qui viennent de se terminer. Il est vrai que les 29 médailles remportées à Pyeongchang constituent un sommet pour le Canada lors des Jeux d'hiver. Après les récoltes de Vancouver en 2010, 26 médailles, Sochi en 2014, 25, et Turin en 2006, 24. Ce nouveau record ne tient cependant pas compte du fait que le nombre d'épreuves n'a cessé d'augmenter avec les années, ce qui a donc multiplié les chances de médailles. Il y avait 78 épreuves olympiques à Salt Lake City en 2002 et le Comité international olympique en a graduellement ajouté 24, dont 16 depuis Vancouver. En Corée du Sud, le Canada a donc rapporté 9,5% des médailles en jeu, un pourcentage égal à celui enregistré lors des Jeux de Turin, mais bien inférieur à celui de Vancouver, qui était de 10,1%. En analysant la répartition des médailles, on observe également que le Canada a obtenu plus de podiums à Pyeongchang qu'à Vancouver, mais qu'il y a remporté 3 titres de moins, 11 médailles d'or en 2018 contre 14 en 2010. Lors des Jeux qui viennent de se conclure, la délégation canadienne a par ailleurs accompli malgré elle un exploit rarissime. Les 29 médailles du Canada ont été obtenues par un nombre égal d'hommes et de femmes, 12 médailles dans les deux cas, alors que 5 autres récompenses ont été gagnées lors d'épreuves mixtes, soit en patinage artistique et en luge et en curling. Par le passé, les athlètes canadiennes ont souvent obtenu plus de médailles que leurs compatriotes masculins. Ce fut notamment le cas à Salt Lake City, à Turin et à Vancouver. Les médailles canadiennes gagnées à Pyeongchang l'ont surtout été dans des disciplines qui font la renommée du pays sur la scène internationale. Le ski acrobatique a été la discipline la plus payante pour le Canada, qui est monté sur le podium en ski cross, 3 médailles, en bosse, 2 médailles, en demi-lune et en slopestyle, 1 médaille dans chaque cas. Le pays avait connu un succès du même ordre il y a 4 ans, Sochi, avec 9 médailles. Fidèle à sa tradition sportive, le Canada a également fait bonne figure en patinage de vitesse sur courte piste, 5 médailles, surtout grâce aux exploits de la triple médaillée olympique Kim Boutin. Le pays a par ailleurs obtenu de meilleurs résultats que par les années passées en patinage artistique et en planche à neige avec 4 médailles dans chaque discipline. Depuis Salt Lake City, les patineurs et les planchistes canadiens n'étaient pas parvenus à obtenir plus de 3 récompenses. Patrick Baer de l'agence France-Presse à Pékin publie un texte sur ce qui pourrait devenir le prochain dictateur à vie de la Chine, s'il faut l'en croire, les aspirations maoïstes de Xi Jinping. Xi Jinping, qui dirige la Chine d'une main de fer depuis plus de 5 ans, devrait pouvoir se maintenir à la tête du géant asiatique autant qu'il lui plaira. Le Parti communiste chinois fait savoir dimanche qu'il voulait lever la limite de 2 mandats présidentiels dans la Constitution. Le comité central, sorte de parlement du PCC, a proposé d'effacer de la Constitution la mention stipulant qu'un président ne peut pas exercer plus de 2 mandats consécutifs de 5 ans, a annoncé l'agence Chine Nouvelle. M. Xi, président de la République populaire depuis 2013, doit normalement quitter ses fonctions en 2023. Je pense qu'il va devenir empereur à vie et le Mao Tse-tung du 21e siècle, commente le politologue Willy Lam depuis l'Université chinoise de Hong Kong, en référence au tout-puissant fondateur du régime communiste en 1949. Si sa santé le lui permet, il souhaite rester au pouvoir 20 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2032, en tant que secrétaire général du parti et 2033 en tant que président de l'État, ajoute M. Lam, citant des sources proches du pouvoir à Pékin. M. Xi aura 80 ans en 2033. Le PCC a également proposé d'inclure la pensée Xi Jinping dans la constitution du pays, a rapporté Chine Nouvelle. Ces dispositions seront soumises aux parlementaires chinois lors de la session annuelle plénière de l'Assemblée nationale populaire qui s'ouvre le 5 mars. En cherchant à se maintenir indéfiniment au pouvoir, Xi Jinping se poutinise en moins démocratique que le président russe Vladimir Poutine, observe le sinologue Jean-Pierre Cabestan depuis l'Université Baptiste de Hong Kong. Après avoir placé depuis 5 ans des hommes à lui aux échelons les plus élevés du pouvoir, il devrait obtenir, selon M. Cabestan, le poste de président de l'ANP pour un très proche collaborateur, Li Zhangshu, son éminence grise devenue l'an dernier numéro 3 du régime après le premier ministre Li Keqiang. Il s'assure ainsi que la réforme constitutionnelle sera adoptée sans coup férir, prévoit le sinologue, notant l'existence d'une opposition interne au régime. Lors du 19e congrès quinquennal du PCC qui s'est déroulé en octobre dernier, M. Xi avait déjà obtenu de voir sa pensée sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère incluse dans la charte du parti, un honneur réservé jusqu'ici de son vivant au seul Mao Zedong, fondateur du régime communiste en 1949. Restez avec nous, on fait une courte pause et on revient pour explorer le Journal de Montréal.
Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a fish on a hook, like a knight in some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. And if I have been unkind, I just hope you will let it go by. And if I have been untrue, I hope you know it was never to you. Like a baby stillborn, like a beast with his horn, I have torn everyone who reached out to me. but I swear by this song and by all that I have done wrong, I'll make it all up to thee. I saw a young man leaning on his wooden crutch. He called out to me, "Don't ask for so much." And a young woman leaning in her darkened door, she cried out to me, "Why not ask for more?" Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free.
Johnny Cash qui reprend ici Bird on a Wire, Leonard Cohen.
Le Journal de Montréal qui aujourd'hui nous parle d'agriculture, de politique bien sûr, mais je m'en voudrais de ne pas commencer par cette nouvelle étrange. Un agent immobilier banni pour avoir séquestré une rivale, un texte de Stéphanie Gendron. Un agent immobilier du Bas-Saint-Laurent a été banni à vie pour avoir piégé, séquestré et menacé une représentante d'un compétiteur parce qu'il tient l'entreprise responsable des pertes de clients qu'il subit depuis plusieurs années. Yvan Dubé a vu rouge quand il a reçu un dépliant d'une autre entreprise dont on doit taire le nom pour préserver l'anonymat de la victime dans la boîte aux lettres de sa maison, de la maison en fait qu'il tentait de vendre depuis un an. Il a échafaudé un plan pour passer ses frustrations. Le courtier s'est inventé une identité et a fait venir une représentante de son compétiteur à sa résidence en décembre dernier, prétendant qu'il voulait vendre sa maison par le biais de cette entreprise. À son arrivée, il verrouille immédiatement la porte derrière elle et la force à s'asseoir sur une chaise et adopte un comportement hostile. Il lui tient des propos insultants et menaçants, l'empêche de quitter la maison et en profite même pour prendre des photos d'elle, peut-on lire dans un compte-rendu du comité de discipline de l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. La représentante a réussi à s'enfuir durant un moment de distraction de l'agent immobilier avant d'appeler une collègue de travail puis les policiers qui sont allés la chercher dans une station-service. Depuis, elle est en arrêt de travail et dit se cloître dans sa résidence de crainte de revivre une situation semblable. Le courtier a plaidé coupable aux infractions reprochées, soit d'avoir séquestré, menacé et intimidé une représentante dans un immeuble en vente dont il est le propriétaire et où il l'avait attirée dans un subterfuge, commettant une infraction à l'article 69 du règlement sur les conditions d'exercice d'une opération de courtage. Assez étonnant que ce soit quand même ce règlement-là qu'on applique pour des actes pareils. Voilà, ça joue dur dans la vente immobilière dans le bas du fleuve. Ah, s'il y a un poncif qui est généralement admis dans le monde agricole, c'est que sans pesticides, l'agriculture, c'est pas rentable. Eh bien, il semblerait que ce soit pas le cas. Du moins, c'est ce que nous apprend Anne-Caroline Desplanques dans un texte intitulé « Plus de bénéfices sans pesticides ». Les agriculteurs pourraient gagner plus et produire mieux en remplaçant les pesticides par une simple assurance collective. D'après une étude internationale qui examine une expérience menée en Italie avec succès pendant 29 ans. L'observation de deux grandes régions en Italie a montré que, dans l'immense majorité du territoire, il n'y a pas de ravageurs, donc pas de nécessité de traiter avec des pesticides, indique le docteur Jean-Marc Bonmatin, chercheur au Centre national de la recherche scientifique en France. Le chercheur dirige le plus important regroupement international de scientifiques qui étudie les effets des pesticides néonicotinoïdes, le Task Force on Systemic Pesticides. Ces produits sont appliqués comme enrobage des semences, en particulier de maïs et de soya, pour prévenir les infestations de ravageurs. Il y a une semaine, Québec a annoncé de nouvelles règles pour limiter leur utilisation. L'exemple italien montre que plus qu'une limitation, une interdiction est possible sans affecter les rendements et les profits des agriculteurs. Au contraire, indique le docteur Bonmatin. Son équipe dévoilera aujourd'hui dans une revue scientifique, Environmental Science and Policy Research, une étude menée en Italie sur un vaste territoire de 50 000 hectares où les pesticides sont proscrits. Malgré cette interdiction, seulement 4% des champs sont réellement attaqués par les ravageurs. On a été sidérés de se rendre compte que finalement, les pesticides ne servent à rien, dit le chercheur du CNRS. Pour lui, le monde agricole se fait avoir avec les pesticides. Pour les remplacer, les agriculteurs italiens ont créé une assurance mutuelle qui couvre les pertes de récolte en cas d'infestation. Ils cotisent chacun l'équivalent de 5 $ par hectare à ce fonds commun, soit 10 fois moins que ce qu'ils payaient pour les pesticides. L'assurance sert de garantie en cas d'échec des principes de lutte intégrée contre les ravageurs, principes qui, en Italie, sont appliqués à l'échelle régionale plutôt qu'en vase clos comme chez nous. Ils impliquent la rotation des cultures, la plantation de variétés plus résistantes et l'utilisation de pièges ou de prédateurs des ravageurs, notamment. Alors, le premier ministre Philippe Couillard est actuellement à Washington et comme c'est dans l'air du temps dans la capitale américaine, on lui a évidemment posé des questions sur le contrôle des armes à feu, ce qui fait l'objet du texte de Marc-André Gagnon. Contrôle des armes à feu, c'est le Québec qui en fait le plus, selon Couillard. Le premier ministre Philippe Couillard n'a pas l'intention de relancer au Québec le débat sur le contrôle des armes à feu qui, du côté américain, bat son plein depuis la fusillade qui a fait 17 morts dans une école de Floride et les déclarations du président à l'effet que les professeurs devraient être armés en école, évidemment. Je dirais que le Québec est la province canadienne qui en fait le plus en matière de contrôle des armes à feu, a souligné M. Couillard lorsque questionné sur le sujet qui est sur toutes les lèvres aux États-Unis depuis la fusillade survenue le 13 février dernier. Le premier ministre, qui s'est entretenu au cours des deux derniers jours avec près d'une dizaine de gouverneurs américains à Washington, a été à même de constater à quel point il s'agit d'un sujet chaud de l'autre côté de la frontière. Les gouverneurs des États américains sont très, très marqués et traumatisés par la tragédie de la Floride, a raconté M. Couillard au terme de sa visite dans la capitale américaine. On sent qu'il y a une grande réflexion qui se fait et elle est menée par la jeunesse du pays. Même si l'entrée en vigueur à la fin janvier du registre québécois des armes à feu a suscité des critiques, notamment en provenance des amateurs de chasse, M. Couillard demeure convaincu qu'il s'agit d'une mesure appuyée par la majorité. « Moi, j'habite en région. Je suis un chasseur. J'ai deux fusils de chasse », a-t-il souligné. « Ce n'est pas un problème d'enregistrer en ligne, gratuitement, sans burinage, une arme à feu. Ça prend quelques minutes. » Malgré les fusillades qui ont eu lieu au Québec au cours des dernières années, le chef libéral n'envisage pas de mesures supplémentaires en matière de contrôle des armes à feu. Au cours des derniers jours, le président américain Donald Trump a notamment évoqué la possibilité d'offrir un petit bonus aux enseignants qui voudront bien s'armer pour mieux protéger leurs élèves. À Toronto, en Ontario, le plus gros conseil scolaire du pays a décidé en novembre dernier de retirer les policiers scolaires de leurs écoles parce que des élèves se sentaient intimidés par cette présence policière. Il faut toujours maintenir une attitude équilibrée, croit M. Couillard. On ne veut pas que nos écoles deviennent des endroits militarisés ou quasi-militarisés. Somme toute, le premier ministre se dit heureux de vivre dans un pays très pacifique qui n'a pas cette culture de la possession de l'arme à feu comme un droit constitutionnel. N'empêche, il faut maintenir la garde élevée, a prévenu M. Couillard, qui garde en tête de tristes événements comme ceux de la mosquée de Sainte-Foy ou de Dawson, pour ne nommer que ceux-là.
histoire banale gravée dans ma mémoire. Aucun bateau pirate ne prendra le pouvoir. Aucune étoile filante me laissera dans le noir. Aucun trac, aucun. Et demain, tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi la main. Là au final, quand je prendrai le large, aucune larme, aucune ne viendra m'étrangler. Aucun nuage de brume dans mes yeux délavés. Aucun sable ni la dune n'arrête le sablier. Aucun quartier de lune, aucun et demain. Tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi la main. Là au final, quand je prendrai le large. Aucun autre décor, aucun autre que toi. Aucune clé à bord, aucune chance pour moi. Et demain, tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi la main. Là au final, quand je prendrai. Aucun requin, aucun air triste. Aucun regret, aucun séisme. Aucune langue de bois. Aucun chaos, aucun, aucun. Et demain, tout ira bien. Sera loin, là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large.
On vient d'entendre Le Large, premier extrait du prochain album à paraître de Françoise Hardy.
Et c'est maintenant au tour de la presse régionale et on commence immédiatement à Sherbrooke avec La Tribune et un portrait d'une famille d'accueil écrit par Marie-Christine Bouchard, offrir une famille d'accueil à 5 enfants de la DPJ. Vicky Côté-Bérard et Jean Clavel ont 3 enfants. Pardon, ce n'est pas tout à fait vrai, ils en ont plutôt 8. 3 d'entre eux sont leurs enfants biologiques, ils ont 6, 8 et 10 ans. Les 5 autres sont des adolescents de 12 à 18 ans qui vivent sous leur toit en famille d'accueil. Il s'agit d'enfants placés sous la garde de la Direction de la protection de la jeunesse, la DPJ. Depuis près d'une dizaine d'années, une quarantaine de jeunes ont été hébergés sous le toit de ce jeune couple qui n'a pas encore 40 ans. Chaque enfant a son projet de vie, que ce soit un retour dans sa famille ou qu'il chemine vers son autonomie. On est là pour les accompagner et les aider à cheminer. Certains sont là pour une saison, d'autres pour plusieurs années. Chaque enfant est différent, image Vicky Côté-Bérard. Quand un enfant leur est confié, il est reconduit à la maison des Côté-Bérard-Clavel. Le travailleur social cogne à la porte, le couple ouvre et c'est là qu'il rencontre le jeune. Ils ne connaissent rien de son histoire, pas un mot, pas une ligne. Tout est à écrire entre eux. Certains de ces grands adolescents qui se présentent chez eux peuvent sembler difficiles à aimer au premier regard. Ils sont froids, fermés, ils se défient, portent leur capuchon jusqu'au bord des yeux. Leur carapace est épaisse, très, très épaisse parfois. Ils ont leur histoire, leur diagnostic, leur comportement, consommation, troubles d'ordre sexuel ou plusieurs autres encore. Leurs mécanismes de défense sont parfois très puissants. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des enfants malgré tout. Les enfants ne viennent pas ici pour recevoir beaucoup d'amour, ce qui est souvent le premier réflexe qu'on a. L'amour ne suffit pas. On leur offre de l'amour, oui, mais de façon plus sobre, ajoute Vicky. La meilleure façon de leur donner de l'amour est de leur offrir un cadre sécuritaire et rassurant, dans lequel ils vont pouvoir grandir, souligne Jean. Les enfants ont souvent de grands problèmes d'attachement ou des troubles affectifs, ce qui fait qu'ils recherchent souvent de l'attention de façon négative. Ici, on essaie de manquer aucun bon coup qu'on peut valoriser. Des fois, c'est « Hey, tu as bien emballé ton sandwich ». Juste ça, oui. Mais ça compte. C'est un exemple, Jean Clavel. Certains enfants arrivent dans un tel milieu avec des carences si grandes qu'ils ressentent le besoin de cacher de la nourriture pour être certains d'en avoir assez. Ils ont manqué de tout. Ici, tout est à volonté, tant que les jeunes mangent et ne gaspillent pas. Il y a des cadres, comme dans toutes les familles, mais ils mangent à leur faim, en tout temps, sans avoir besoin de faire des réserves. Il y a tout le temps plein de fruits sur la table. On passe plusieurs pains par jour, soutient Jean Clavel. Quels sont les avantages pour les jeunes de vivre dans une famille d'accueil plutôt que d'aller vivre dans un milieu de vie comme le centre de réadaptation du Val-du-Lac? Plus vite on peut établir un projet de vie pour un enfant, que ce soit son cheminement vers l'autonomie ou le retour dans son milieu, mieux c'est. Le premier choix est de laisser l'enfant dans son milieu de vie. Quand ce n'est pas possible, on essaie de le confier à un proche significatif. Ensuite, on a nos familles d'accueil régulières. On veut normaliser les enfants et c'est plus normal de vivre dans une famille que de vivre dans un centre jeunesse, soutient Sonia Caron, chef de service ressources du CIUSSS de l'Estrie CHUS. Le couple croit fermement, très fermement aux possibilités de réadaptation de ces enfants qui leur sont confiés le temps d'une saison ou d'une dizaine de saisons. Des belles histoires, ils en ont connu, ils en connaîtront encore. Et ils portent toujours dans leur cœur tous ces jeunes êtres tourmentés qui sont passés dans leur maison. À Québec, Henri Ouellette-Vézina du Soleil s'est intéressé aux réclamations des entreprises privées en matière de CHSLD. Donc, l'État doit investir adroitement dans les CHSLD, dit l'APEC. L'Association des établissements privés conventionnés, l'APEC, a réitéré samedi l'importance d'investir intelligemment dans les CHSLD en misant sur des valeurs sûres qui engendrent des effets directs et surtout positifs autant pour les résidents que le personnel des centres d'hébergement. Regroupant 30 propriétaires gestionnaires, 7000 patients et 59 installations, dont 57 CHSLD et 2 centres de réadaptation, l'APEC plaide concrètement pour que le ministère de la Santé dépense dans des solutions fiables, dont l'efficacité a d'ores et déjà été démontrée. Le modèle privé conventionné, c'est le seul et unique modèle de financement qui assure contrôle et certifie que l'argent versé par le gouvernement pour les soins aux résidents est utilisé uniquement à ses fins, croit la directrice générale de l'association, Annick Lavoie. Son groupe soutient que les solutions aux problèmes des centres d'hébergement passent par un changement de paradigme en santé. L'enveloppe budgétaire réservée aux soins n'est pas lucrative. Les sommes non utilisées sont retournées au ministère et en tant que société, on paie donc le juste prix sur les soins. C'est ce modèle qui devrait servir d'exemple quand on cherche des solutions, lit-on dans un communiqué transmis aux médias ce matin. C'était donc l'APEC qui vante le rôle de l'entreprise privée en matière de soins. À Gatineau, c'est l'itinérance qui retenait l'attention de Jacques Normand Sauvé dans les pages du droit. Itinérance, des acteurs du milieu réclament un virage. Dans le cadre de l'initiative nationale The Coldest Night of the Year, la nuit la plus froide de l'année, des marches contre l'itinérance et la misère étaient organisées dans 121 communautés canadiennes samedi. D'abord, en début d'après-midi à Ottawa, des dizaines de citoyens, universitaires, étudiants et membres du collectif SOS Vanier ont défilé dans les rues de la capitale dans le but de dénoncer le manque d'efficacité des moyens encourus pour réduire, voire éradiquer l'itinérance à Ottawa. Après 3 années de mise en œuvre du plan décennal de logement et de lutte contre l'itinérance adopté en 2014 à Ottawa, force est de se rendre compte que les résultats sont mitigés. Pis encore, on observerait une détérioration des conditions de vie dans la capitale au sein de ce segment de la population. Ainsi, selon le chercheur Tim Aubry de l'Université d'Ottawa, le nombre de personnes qui utilisent les foyers d'hébergement d'urgence a augmenté à Ottawa de 6508 en 2014 à plus de 7000 personnes en 2016. Le nombre d'itinérants chroniques n'a pas changé et la durée de séjour dans les foyers d'urgence continue d'être très élevée, soit 73 jours en moyenne par personne en 2016, alors que la cible est de 30 jours. Bonne nouvelle pour les amants de la nature et ça nous vient de la région de Bromont. C'est donc la Voix de l'Est de Green Bay qui nous en parle, un texte de Jean-François Guillet. Après des mois de tractations concernant l'avenir du Parc des Sommets, le gouvernement du Québec a mis fin au suspense dimanche en annonçant à Bromont qu'il octroyait les sommes nécessaires pour que le projet voie le jour. « C'est une grande journée. J'ai la chair de poule », a lancé en point de presse la ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse, à la santé publique et aux saines habitudes de vie, Lucie Charlebois. Sous des applaudissements nourris, la ministre responsable de la région de la Montérégie a indiqué à la foule rassemblée à l'hôtel de ville de Bromont que les 4 millions manquants pour boucler le projet de parc intégral sont réunis. C'est avec fierté, non sans un brin d'émotivité, que le maire de Bromont, Louis Villeneuve, a pris la parole devant les nombreuses personnes qui se sont déplacées dimanche malgré les caprices de Dame Nature. « Il s'agit d'une journée historique. Nous y avons cru et nos efforts sont maintenant récompensés. Je suis très fier de ce que nous avons accompli ensemble. Parfois, à Bromont, on s'entrechoque, mais on finit par s'entendre et faire les choses autrement. » Ça signifie être plus actif, plus vert et plus intelligent. Et le Parc des Sommets est le premier jalon. Signe de l'engagement de la communauté dans le projet, une sérigraphie portant sur les principaux thèmes du parc créée par l'artiste bromontoise Florence Huppin a été remise à la ministre Charlebois. De son côté, le grand patron de Bromont, Montagne d'expérience, a accueilli avec soulagement le dénouement de ce dossier de longue haleine, ayant fait vivre à la famille Desourdi une montagne russe d'émotions au fil des 5 dernières années. « Ma grande sœur a eu 75 ans hier, et elle m'a dit que le Parc des Sommets est le plus beau cadeau qu'elle pouvait avoir », a confié Charles Desourdi. D'un autre côté, dans notre plan d'affaires, on veut attirer des villégiateurs et pour y arriver, ça prend un parc. Et j'avoue que ces fonds arrivent à un moment extraordinaire pour nous permettre de concrétiser plusieurs projets pour la montagne. C'est un bel accomplissement. La culture de Bromont ne sera plus jamais la même. On peut se tourner vers l'avenir, a confié Claudette Duclos, présidente de la Société de conservation du Mont-Brome. « C'est une annonce qui fait tellement de bien », a repris visiblement ému Bertrand Lucier, le président de Protégeons Bromont. « Aujourd'hui, je peux dire chapeau. Pour toutes les générations futures, le site sera protégé », a mentionné Pierre Vinet, membre du comité de financement. « C'est vraiment toute une victoire », a commenté son collègue Gérald Desourdi. « Dans 100 ans, on pourra dire que les Gaulois de Bromont ont accompli quelque chose d'extraordinaire. » Avec l'annonce du gouvernement fédéral qu'on allait bientôt légaliser la consommation de marijuana, c'est le cas de le dire, on a l'impression que tout le monde tourne autour du pot. Et c'est le cas aussi à Trois-Rivières. Une usine de cannabis pourrait voir le jour à Trois-Rivières d'ici un an, ce que nous dit Paul Vermeau-Desroches dans les pages du Nouvelliste. Il semble de plus en plus probable que Trois-Rivières ait sous peu son usine de cannabis. À l'instar de Louisville, la ville est présentement en pourparlers avec des promoteurs on ne peut plus sérieux qui souhaitent implanter d'ici la prochaine année une usine de cannabis dans le parc industriel des Carrefours. L'entreprise Demeter Organica a l'œil depuis près de 2 ans sur un terrain du parc industriel des Carrefours situé à l'intersection nord-ouest du boulevard LP Normand et de la rue Charles Maillot. Un terrain pour lequel l'entreprise bénéficie d'une option d'achat déjà accordée par le conseil municipal. Voilà. Restez avec nous donc et on revient de l'autre côté de la pause avec le bloc culturel de cette émission.
On vient d'entendre la nouveauté du groupe Cherry Cherry. Ça s'intitule « Hurler à la lune ».
Et sans plus attendre, on aborde le volet culturel de cette émission avec une excellente nouvelle que nous rapporte la presse canadienne. Le titre dit tout. Les rois mongols primés à la Berlinale. La Berlinale, oui, pardon. Les Rois Mongols, le film de Luc Picard, a remporté l'Ours de Cristal au Festival international du film de Berlin, un prix qui est décerné chaque année par des jeunes. Les 11 enfants et 7 adolescents du jury disent avoir apprécié le jeu des acteurs du film qui leur a permis de sympathiser avec leurs personnages et de se plonger profondément dans l'histoire. Ils affirment avoir été charmés par l'humour omniprésent dans le long-métrage qui aborde pourtant un sujet très sérieux. Les jurés ont aussi reconnu les aspects techniques du film, notamment la musique et les plans de caméra. Les Rois Mongols est le 4e long-métrage réalisé par Luc Picard. L'œuvre, inspirée du roman de Nicole Bélanger, met en scène la vie de 4 enfants pendant la crise d'octobre de 1970 qui décident de kidnapper une vieille dame anglophone pour revendiquer leurs droits. Les Rois Mongols a obtenu 6 nominations au prix Écran canadien qui seront remis en mars. Il est notamment en lice pour le prix de la meilleure adaptation et de la meilleure direction artistique. Clark Coulter, qui personnifie la vieille dame dans le film, est également en nomination dans la catégorie interprétation féminine dans un rôle de soutien. On demeure à Berlin et donc en cinéma pour aborder un autre film québécois, Les Faux Tatouages. Berlinale, une première inoubliable pour Les Faux Tatouages, un titre, de Catherine Schlager. Pour cette première européenne, la splendide salle de 1038 places était presque comble d'un public majoritairement jeune, et celui-ci a manifesté haut et fort son appréciation en applaudissant chaudement le réalisateur, les acteurs Anthony Terrien et Rosemary Perrault, la productrice Catherine Lefrançois et le directeur photo Vincent Allard, et en posant de nombreuses questions lors de la discussion après le film. Entendre les gens rire pendant la projection et venir me voir ému à la fin, certains même en pleurs, c'est ça ma paye. C'est une des premières fois que j'avais un aussi beau retour de la part des jeunes, explique Pascal Plante. Cette projection acclamée couronnait une semaine riche en émotions pour le cinéaste. Arrivé au lendemain de l'ouverture du festival en compagnie de son équipe, Pascal Plante a eu l'occasion de voir quelques films, dont En attendant avril de son ami Olivier Godin, présenté à la Semaine de la critique. La Berlinale, ce n'est pas juste une bulle de l'industrie. Il y a beaucoup de jeunes, des étudiants en cinéma, un vrai public. C'est un festival prodigieux. Tu es dans des salles incroyables, tu vois ton film dans des conditions parfaites, tu tâtes le pouls du vrai public. Les rencontres entre collègues, cinéastes et gens de l'industrie sont également nombreuses lors d'un festival catégorie A, comme la Berlinale. Ainsi, l'équipe a eu l'occasion de prendre part à plusieurs dîners, réceptions à l'ambassade et autres soirées spéciales. Lundi dernier, Pascal et son équipe étaient invités à un repas organisé pour les artisans de la section Génération. L'occasion idéale de rencontrer l'équipe du film Les Rois Mongols, présentée dans la même section. Luc Picard était assis à côté de nous. Luc, on le connaît tous parce que c'est un comédien vedette, mais je ne l'avais jamais rencontré. L'ironie est que ça prend un festival à l'étranger pour rencontrer autant de gens du Québec et du Canada. Avec la présence de représentants de Téléfilm Canada et de la SODEC, Pascal Plante a également l'occasion de réseauter, mettant ainsi un visage sur des gens de l'industrie dans le cadre de rencontres à l'ambassade du Canada. Je n'étais jamais allé dans une ambassade de ma vie. Et là, en une semaine, j'y suis allé 3 fois. Je le prends avec un grain de sel et avec un peu d'humour, parce qu'on a fait un film punk avec des bouts de ficelle. Théâtre, un texte de Christian Saint-Pierre qui s'est intéressé à la pièce « Les Marguerites » sous le titre « Le crime d'écrire ». De Virginia Woolf à Mary-Louise Fleischer, en passant par Martha von Geschwitz et Jackie Kennedy, Stéphanie Jasmin et Denis Marlowe ont eu le don de nous faire découvrir ou redécouvrir des femmes occultées par leur époque, incomprises par leur société, fascinantes femmes de chair ou de papier qui, souvent après s'être tenues dans l'ombre d'un ou de plusieurs hommes, entrent dans la lumière, apparaissent sur scène dans toute leur complexité, dans toute leur richesse intellectuelle, philosophique, morale et psychologique. Avec Les Marguerites, Stéphanie Jasmin dessine en quelque sorte le portrait en creux de Marguerite Porrette, cette béguine dont on ne sait presque rien, sinon qu'elle a écrit un livre et qui a franchi les siècles. Le miroir des âmes simples et anéanties, un traité de vie spirituelle à l'ampleur et à la beauté fulgurante, et que celui-ci lui a valu d'être brûlée vive en 1310. À vrai dire, le destin de la mystique à la prose subversive est un superbe prétexte, celui d'une traversée des époques sur le thème inépuisable des femmes qui écrivent, celles-là dont on dit qu'elles sont dangereuses, probablement parce qu'elles nomment, dévoilent, représentent et accusent. Nous sommes dans l'atelier d'une artiste, celui d'une sculpteur ou d'une marionnettiste, laboratoire immaculé, chambre d'écho au sol recouvert de poussière de plâtre, refuge tout de même percé de deux portes et de deux fenêtres. Dans cet espace vont se déployer, entre Marguerite Porrette et d'autres Marguerites de Constantinople, d'Ouen, d'York, de Navarre et d'Uras, des liens hypothétiques, réels ou poétiques. Contrairement à Carol Churchill, qui avait imaginé dans Top Girls un dialogue entre des femmes de différentes époques, Stéphanie Jasmin juxtapose soigneusement les monologues de manière à laisser le spectateur établir les relations, constater les troublantes résonances. Pour incarner le silence de Marguerite Porrette, ce est celui qu'elle a choisi d'adopter pendant son procès, mais surtout pour traduire son tumulte intérieur, on a fait appel à Louise Le Cavalier. Un peu longues, les interventions de la danseuse et chorégraphe au début et à la fin de la représentation sont néanmoins sublimes. Dans la deuxième partie, Céline Bonnier, qui participe au spectacle en alternance avec Evelyne Rompré, prête vie à celle qu'on nomme les témoins. La comédienne, dont le visage est filmé le plus souvent en direct puis projeté sur des portraits émergents du plâtre, glisse tout naturellement du 13e au 20e siècle, relève haut la main le défi d'interprétation en exprimant tour à tour la prestance, l'ingénuité, la gravité, la frivolité et la désespérance. La troisième et dernière portion du spectacle est consacrée à une jeune femme d'aujourd'hui, fortement remuée par le traité de Marguerite Porrette, qu'elle a déniché dans une librairie de seconde main. Brillamment défendue par Sophie Desmarais, le monologue rendant notamment hommage à Sarah Kane et à Nelly Arcan évoque de manière poignante, comme l'écrit fort justement Elsa Pépin dans le programme de soirée, ces femmes d'hier et de maintenant qui cherchent toujours à nommer les contradictions de leur vie intérieure, à donner une dimension sacrée à leur passage, quête de transparence qui porte en elles toutes celles qui les ont précédées. Alors, Les Marguerites, c'est un texte de Stéphanie Jasmin, c'est mis en scène par Denis Marlot, une coproduction de l'Espace Go et Dubu, et c'est à l'Espace Go jusqu'au 17 mars. Alors, la semaine de relâche, c'est pour bientôt. Pourquoi ne pas amener les enfants au théâtre? Ripopée, la magie clownesque, c'est Marie Fradette qui signe le texte. Passionnée par le thème du voyage, la metteuse en scène Christine Rossignol l'exploite de façon symbolique dans Ripopée, une toute nouvelle création qui prendra d'assaut les planches du théâtre Les Gros Becs pendant la relâche scolaire. Ripopée, c'est l'histoire de quatre clowns qui vivent dans un voyage inattendu, non pas celui qui nous déplace sur le plan géographique, mais bien celui qui nous ouvre à l'autre, qui invite à le découvrir. Jointe par le devoir, Christine Rossignol explique que le spectacle est avant tout le voyage du moi intime au moi social, le voyage de l'ordinaire à la fantaisie, de l'objectif personnel à la réalisation. Tout pour elle est prétexte au voyage intérieur. Que ce soit l'écho de notre étonnement, notre friction avec la réalité, nos émotions sont des voyages qui nous mènent à d'autres émotions. Le clown, personnage central de la pièce, est d'ailleurs et surtout investi de cette notion par sa façon de suivre ses élans et d'aller dans la fantaisie qui demande un abandon. Un voyage en soi, ajoute-t-elle. La petite troupe de voyageurs qui s'installe sur la scène participe et témoigne de cette ouverture à l'autre. Le public les regarde prendre place, puis le spectacle démarre au moment où les quatre comparses prennent conscience de l'auditoire. C'était important pour la créatrice de briser ce quatrième mur, symbole, dit-elle, du passage de ce moi intime au moi public. mis en scène en collaboration avec Michel Dallaire, la matérialisation de cette épopée philosophique dévoilera un décor qui rend compte de cet échange. Une roulotte réalisée par la scénographe Huguette Lauzet s'ouvre et tourne selon différents angles. Elle est à la fois le lieu de vie et de représentation des comédiens. L'objectif est ainsi, comme le souligne Rossignol, de décloisonner ces deux fonctions afin de rendre lisible que le clown, quoi qu'il fasse, reste lui-même. Alors, si la chose vous intéresse, Ripopée, c'est une idée originale, une direction artistique et une mise en scène de Christine Rossignol, la direction de personnages Michel Dallaire, les auteurs et interprètes Ariane Cabana, Julie Dionne, Philibert Hébert-Fillion, Myriam Sutton, une production du Théâtre de l'Aubergine, présentée au Théâtre des Gros-Becs du 27 février au 11 mars, et c'est pour un public de 5 à 11 ans, mais il n'y a rien qui vous interdit d'y aller quand même.
C'était un petit détour dans l'univers musical de Lydia Kepinski avec la pièce Andromaque.
Puisque cette émission tire à sa fin, je ne résiste pas à l'envie de vous parler de météo, mais il faut dire que j'ai aucun mérite puisque tous les journaux en parlent. De Moscou à Paris, l'Europe se prépare à une vague de froid sibérien. C'est cru quand ça arrive aux autres, c'est comme moins froid. Alors, c'est l'Agence France-Presse qui nous en parle. L'Europe grelottait dimanche alors qu'une vague de froid sibérien gagnant progressivement l'ensemble du continent a déjà fait au moins 3 morts, 1 en France et 2 en Pologne. jusqu'à moins 10 degrés Celsius ressenti à moins 18 avec le vent. Le froid venu de Sibérie s'est emparé de la France dimanche après-midi avec des températures minimales glaciales dans le nord-est du pays selon Météo France. Un sans-abri de 35 ans a été retrouvé mort dimanche matin par ses deux camarades d'infortune à Valence, où le thermomètre est descendu jusqu'à moins 3 degrés dans la nuit. Les premières constatations laissent à penser qu'il est mort de froid, ont précisé les autorités. En Russie, le Centre météorologique national a annoncé qu'entre le 23 et le 28 février, des températures anormalement froides allaient frapper le pays. Dans la nuit de dimanche à lundi, les températures dans la région de Moscou devraient ainsi descendre à moins 24 degrés Celsius, alors que dans certaines localités du centre de la Russie, le thermomètre va chuter jusqu'à 35 degrés Celsius. Et pendant ce temps-là, à Rome, il y a des bagarres de boules de neige. Alors voilà, profitez bien du printemps qui devrait commencer chez nous vers cette semaine. Dans le Journal de Montréal, Lise Ravary fait le point sur la visite du premier ministre Trudeau en Inde. Et c'est un point de non-retour, ce qui est son titre d'ailleurs. Connaissez-vous l'expression « jumping the shark », sauter par-dessus le requin? Cela décrit le moment où une série télévisée amorce son déclin, le point de non-retour créatif. Pourquoi sauter par-dessus le requin? Dans un épisode de la comédie américaine Happy Days, The Fonz, le personnage principal saute par-dessus un requin en faisant du ski nautique, une cascade invraisemblable. En Inde, Justin Trudeau a sauté par-dessus son requin, ou comme on dit au Québec, il a frappé son Waterloo. L'organisation d'un voyage officiel, seule la gouverneure générale fait des voyages d'État, prend plusieurs mois, comme le tournage d'un film dans lequel le premier ministre joue le premier rôle. Des travailleurs de l'ombre organisent l'itinéraire, les rencontres, les réceptions, la sécurité. Ils conseillent le premier ministre sur les écueils à éviter, les faux pas à ne pas commettre, les occasions à saisir, le protocole, les us et coutumes locaux, etc. Même le choix des tenues de sa garde-robe de Maharaja, que le magazine Vanity Fair a comparé au style Donald Trump en matière de décoration intérieure. Ouch! Depuis son arrivée au pouvoir, on entend des rumeurs de désorganisation extrême au bureau du premier ministre. Les choses seraient-elles en train de se désagréger? Pourquoi personne ne lui a dit qu'il allait faire rire de lui et étriquer comme s'il assistait à un mariage? Pourquoi personne ne lui a dit que d'amener ses enfants envoyait un mauvais message sur l'importance de l'école? Pourquoi personne ne lui a dit qu'il donnait l'impression d'instrumentaliser sa famille, surtout quand il semble en prière? Pourquoi personne ne lui a dit qu'un extrémiste sikh coupable de tentative de meurtre sur un ministre indien en Colombie-Britannique s'était immiscé dans son voyage? Pourquoi personne ne lui a dit qu'un voyage officiel de 8 jours offre trop d'occasions de se mettre les pieds dans les plats quand les relations entre les deux pays sont difficiles? Pourquoi personne ne lui a dit qu'en niant avoir mentionné le séparatisme québécois qu'il accusait son hôte de mentir et que s'il l'a dit, c'est lui qui a menti et qui a gravement insulté le Québec? Pourquoi personne ne lui a dit que les intérêts de la diaspora sikh ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux du Canada? Ce voyage va coûter des millions, ne rapportera que des pinottes et de gros maux de tête pour tous les membres de son gouvernement qui devront défendre l'indéfendable. Pourquoi personne ne lui a dit que ce voyage aurait l'apparence de vacances de luxe en famille payées par les contribuables, alors que la controverse entourant les séjours chez l'Aga Khan n'est toujours pas calmée? Pourquoi personne ne lui a dit qu'à son retour, quand le coût du voyage sera révélé, il sera emporté par un scandale en forme de tornade? Son périple de 10 jours en Chine lors du G20 en 2016, accompagné de sa famille, avait coûté 1,8 million, mais avait permis de débloquer de gros dossiers commerciaux valant des milliards. Mais quelqu'un a bien choisi la date de retour, car le budget fédéral sera déposé demain. Les questions sur l'Inde devront attendre. On parlait de la Chine à l'instant même, eh bien Philippe Melbourne Dufour nous informe sur une de ces pratiques culturelles qu'on essaie d'éradiquer actuellement. La Chine lutte contre les spectacles érotiques lors de funérailles. Le gouvernement chinois part en guerre contre une pratique assez commune dans les zones rurales de ce pays asiatique, celle d'inviter des danseuses exotiques à des funérailles. Le ministère de la Culture a annoncé le mois dernier qu'il allait s'attaquer aux actes vulgaires, obscènes ou pornographiques comme la stripteaseuse pratiquée durant les funérailles, les noces et les fêtes traditionnelles chinoises. Le combat du gouvernement ne date pas d'hier. Déjà en 2006, le ministère de la Culture affirmait s'intéresser à la situation. Selon un communiqué qui peut être consulté sur le site web du ministère, la plus récente offensive ciblera 19 villes dans 4 provinces. Certaines communautés rurales croient qu'un plus grand nombre de gens à des funérailles aident à rendre hommage aux morts et apportent de la bonne fortune à la famille, ce qui pourrait expliquer cette tradition peu orthodoxe. La nouvelle campagne encourage les gens à appeler un numéro spécial pour dénoncer les méfaits en échange de récompenses monétaires. Des sommes astronomiques sont versées à chaque année pour payer du divertissement de ce genre. Dans plusieurs journaux aujourd'hui, on avait également un texte qui se penchait sur les super-aînés. Que sont les super-aînés? Ce sont des personnes âgées qui ont une mémoire exceptionnelle. Vieux corps, jeune cerveau, quel est le secret des super-aînés? Un texte de Lauren Nirgard, oui, de l'Associated Press à Washington. Et il est extraordinaire de voir des octogénaires et même des nonagénaires avoir la même mémoire que des gens beaucoup plus jeunes. Et les scientifiques peuvent maintenant jeter un coup d'œil à l'intérieur du cerveau de ces super-aînés pour tenter de percer leurs secrets. Ces recherches découlent des tentatives pour le moment décevantes de trouver de nouveaux médicaments pour prévenir et combattre la maladie d'Alzheimer. Au lieu de ça, pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de comprendre ce qu'on doit faire pour maximiser notre mémoire? Demande la neuroscientifique Emily Rogalski, qui dirige une équipe sur les super-aînés à l'Université Northwestern. Des portions du cerveau rétrécissent avec l'âge, ce qui explique pourquoi la majorité des gens perdent un peu de mémoire en vieillissant, même s'ils évitent des problèmes comme la maladie d'Alzheimer. On sait maintenant que le cerveau des super-aînés rétrécit plus lentement que celui des autres. L'autopsie des premiers super-aînés décédés depuis le début de l'étude démontre qu'ils ont nettement plus d'un certain type de cellules nerveuses dans une région reculée du cerveau, cruciale à l'attention, a dit Mme Rogalski lors d'une rencontre récente de l'Association américaine pour l'avancement des sciences. Ces aînés ne sont pas seulement une curiosité ou une rareté, prévient la neuroscientifique Molly Wagstaer de l'Institut national sur le vieillissement, qui finance en partie cette étude. On peut potentiellement en apprendre beaucoup et s'en servir pour aider tout le monde, même ceux qui semblent se diriger vers une maladie neurodégénérative, a-t-elle dit. Rabais de 70% sur le Nutella. Les clients se chamaillent, la justice réagit. Ça nous vient de France et de l'agence France Presse, Paris. La justice française devrait être saisie jeudi à la suite d'une promotion à 70% sur le Nutella qui a provoqué des empoignades dans des magasins Intermarché accusés de revente à perte. Nos agents ont conclu au fait qu'Intermarché n'a pas respecté les dispositions en vigueur concernant la revente à perte et c'était pas beau comme scène. Voilà qui met un terme à cette édition donc du 26 février 2018 des Voix de service. Je rends ce micro à sa titulaire dès demain et je remercie Jean-Sébastien Laliberté qui a assuré la mise en onde et les choix musicaux. Merci à vous.